Radio Kapi, grand témoin.
Il a été ministre de l'Éducation nationale, premier vice-président de la Commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption pendant la transition. Le professeur Omer Koutoumi Saba Lukasiota est l'invité de grand témoin. Nous lui disons merci d'être venu, professeur.
Merci, c'est plutôt moi qui vous remercie. Oui.
Professeur Koutoumi Saba, au cours de cette émission, nous parlerons de l'éducation nationale en RDC, de la lutte contre la corruption et de nos langues, puisque vous êtes docteur en linguistique.
Ok.
Omer Koutoumi Saba Lukasiota, votre nom a toute une histoire. Commençons par votre prénom Omer. Pourquoi vous ne l'aimez pas?
Bon, pourquoi on n'aime pas quelque chose, je ne sais pas, mais c'est un nom que je n'ai pas eu à choisir. Hein, sont les parents à la naissance, sans doute influencés par les pères jésuites flamands que nous avions. C'est eux qui ont choisi. Hein. Moi-même, je préférais Jean de Dieu, quelque chose comme ça. Hein, mais bon, je n'ai pas changé. J'ai vu des amis changer de prénom. Je n'ai pas changé, mais je ne l'utilise pas beaucoup non plus.
En réalité, Koutoumi, ça n'était pas votre nom. C'était plutôt Kyoto.
C'était Kyoto, oui. Koutoumi, ça, c'était le nom de mon père. Avec l'occidentalisation, les pères ont obligé notre papa à changer, à devoir mettre Koutoumi, ça, partout. Ce qui, vous le savez bien, chez les Africains, n'a pas beaucoup de sens. Un nom comme Koutoumi, ça, c'est un nom d'homme. Mais mes sœurs, qui sont des femmes, ont aussi Koutoumi, ça. Donc, on a perturbé, quelque part, le système africain.
Et que dire de Bahaluka?
Ça, c'est vraiment assez compliqué pour beaucoup de gens, puisque le H, hein, on ne le rencontre pas facilement dans les grandes langues comme le Lingala. Et c'est pour ça que je l'ai abrégé Bahaluka. Ils se sont éloignés linguistiquement parlant.
Koutoumi, ça l'envoyé, Kyoto, le rassembleur,
oui.
Et Bahaluka...
Vous voyez bien qu'il n'y a pas de rapport.
Une contradiction.
Il n'y a pas de rapport comme tel entre les trois.
Vos études secondaires, vous les faites au collège jésuite, l'actuel Ntemo, ex-collège Saint-Paul de Katongolunda, dans la province du Bandundu, oui. En option gréco-latine.
C'était nous qui étions les derniers de cette section. Les littéraires commençaient. Et c'est cette année-là que les premiers examen d'État commence.
C'est en 1972 que vous terminez vos études universitaires en lettres à Lubumbashi, mais pendant que vous étiez encore étudiant, vous avez un peu séjourné en prison.
J'ai terminé à Lubumbashi,
mais vous avez commencé,
on avait commencé à
Lovanyama-Kinshasa, oui.
Hein, parce que entre-temps, Mobutu a décidé d'envoyer la faculté de lettres à Lubumbashi. Je ne comprenais pas comment il a eu cette idée-là. Les lettres, ça ne va pas beaucoup avec les pierres, le malachite, que l'on trouve...
Le cobalt et le cuivre.
Le cobalt et le cuivre, alors que les lettres, c'est l'inspiration. Ça avait l'air d'être contre nature, cet envoi. Donc, on termine là-bas. Quelque temps après, on est envoyé. On était recruté hein, à l'époque pour servir dans les écoles secondaires. Je me retrouve à Kabinda avec le professeur Kalele.
Mathieu Kalele.
Mathieu Kalele, que vous connaissez bien. Et voilà, c'est l'époque où on disait, nous ne sommes ni à gauche, ni à droite.
Non aligné.
Ni même au centre. Alors, nous, on a dit, c'est qu'on est en dessous. Alors, ça suffit pour qu'on aille dire aux gens du MPR, dit voilà, ça sont des contre-révolutionnaires, et on est venu nous arrêter. Le gouverneur a dû prendre un hélicoptère de Mbujimaï, nous prendre à Kabinda, et nous avons fait 6 mois de prison souterraine là-bas à Mbujimaï, avant d'être expédiés sur Kinshasa. Et ici, à l'époque, c'était Seti qui s'occupait de ces choses-là. Il a jugé qu'on avait exagéré les raisons pour lesquelles on nous a arrêtés. On ne voyait pas très bien pourquoi on devait nous acheminer manu militari. Mais l'anti-mobutisme, je crois, commence à cette époque-là. Et c'est resté comme ça.
Jusqu'à ce jour.
Jusqu'à ce jour.
Radio Kati, grand témoin.
Ancien ministre de l'Éducation nationale, ancien premier vice-président de la Commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption pendant la transition, le professeur Omer Koutoumi Saba Lukasiota est celui que grand témoin vous fait découvrir. Professeur Koutoumi Saba, en 1986, vous devenez docteur en linguistique de l'Université Louvain en Belgique. C'est quoi la linguistique?
Bien, la linguistique, c'est un terme savant. J'aurais voulu qu'on dise d'ailleurs la linguistique, parce que c'est la science qui s'occupe des langues. Et en flamand, c'est beaucoup plus cohérent. On dit ça de talkunde. Ça signifie science des langues.
Et qu'est-ce que le spécialiste que vous êtes peut dire de nos langues, des langues congolaises?
Merci bien. Je crois qu'il y a dans le pays un problème de communication. Vous savez que l'interview que nous sommes en train de passer ici ne sera pas suivie par la majorité des Congolais. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue française. Nous avons fait les statistiques, vous l'avez vu, lorsque nous parlions de l'enseignement supérieur et universitaire, nous considérons que quelqu'un est francophone lorsqu'il a terminé au moins les humanités. Là, il peut s'exprimer en français spontanément, mais pas avant. Or, vous savez que nous n'avons jusque-là dans le pays que 3 700 et plus de gens qui ont un diplôme d'État, ce qui ne représente que 2,89% de la population. Quant aux universitaires, ben, il n'y a pas plus de 417 000 jusqu'au moins au milieu de cette année. Donc on n'a même pas 500 000 Congolais qui sont universitaires. Ça représentait 0,69%.
Donc vous pensez que l'on doit plutôt faire la promotion des langues locales?
Le problème, c'est quoi? Pour vous, les journalistes, je le dis toujours, lorsque vous avez de l'information, vous devez chercher quels sont les codes que vous devez utiliser pour que l'information arrive à la population. Or, ces gens-là, bon, il se fait qu'aujourd'hui, la majorité des Congolais ne savent pas suivre la langue française. Tout ce qu'on dit au Conseil des ministres, ils ne suivent pas. Tout ce que l'on donne au journal, hein, le journal parlé, le journal télévisé, en majorité, ils ne suivent pas. Je ne connais plus un seul journal en langue congolaise. Hein, à l'époque, il y avait le Congo Yassika, il y avait Tetembueto, nous autres, on avait un journal qui venait de Kisantu, qui était en Kintandu. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul journal en langue congolaise.
Donc les langues nationales ne suffisent pas?
Lorsque vous allez autour des kiosques des journaux, hein, là où on voit les journaux, suivez un petit peu la scène qu'il y a là-bas. Il y a un journal qui est suspendu, qui est en français. Ceux qui sont tout autour parlent tous en lingala. Il y a un qui commente ce qu'il croit avoir compris, parce que j'en ai déjà surpris des gens qui expliquaient autre chose que ce que le journal disait. Hein, donc, vous voyez ce que ça donne sur le plan de la communication.
Et comment peut-on résoudre ce problème, à votre avis?
Il faut une politique linguistique. Le gouvernement doit avoir une politique linguistique. Devoir se dire, voilà, nous avons tel citoyen. Pour atteindre tel groupe, il faut utiliser telle langue. Dans l'enseignement, nous devons savoir comment les enfants commencent. Dans les médias, dans les églises. Donc, il faut que le gouvernement élabore une politique linguistique qui a pour objectif de faire arriver l'information chez tous les Congolais. Dans cela, même les langues nationales ne suffisent pas. Parce que, à part le tsouba qui est aussi parlé dans les villages, les trois autres langues nationales sont surtout des langues des centres urbains. Donc, on ne prend pas en compte, sur le plan linguistique, les citoyens, les villageois, qui sont encore les plus nombreux dans notre pays.
Omer Koutoumi, ça, vous êtes professeur ordinaire, vous enseignez à l'université de Kinshasa et dans d'autres instituts supérieurs. Parlons maintenant de la suspension de la grève à l'enseignement supérieur et universitaire jusqu'au 31 janvier prochain. Le président de l'association des professeurs de l'UNIKIN, APUKIN, affirme que les professeurs ont reçu des éléments complémentaires à leurs revendications, entre autres les 18 milliards leur accordés par le gouvernement. Autre raison évoquée, les étudiants sont en retard avec les cours. Concernant ces 18 milliards, la même source déclare que cela n'est qu'une promesse qui nécessite des démarches pour sa concrétisation. Il ajoute que les 9 milliards destinés aux professeurs et les 9 autres au reste du corps académique, administratif et technique ne doivent pas être appelés partage. Et ce montant dans l'ensemble ne correspond pas à leurs attentes. Je vous invite, professeur Koutoumissa, à suivre le professeur Kabamba Mweu, joint au téléphone par Belinda Bosuma.
Dans ce partage, si vous pouvez utiliser le terme comme terme, le professeur d'université avait revendiqué, par exemple, pour un professeur d'université, à la moyenne africaine de 4000 dollars à peu près. Mais on n'a pas obtenu, vous savez que le gouvernement n'a rien prévu, ce n'est que dans les recettes additives qui ont été dégagées de la commission ECOFIN, on a pu obtenir les 4 milliards. Et au niveau du ministère, on a fait un effort dans les frais pour compléter ce que vous les milliards, je crois. Et de là, c'est là l'importance du corps. Et ce n'est pas ça le niveau que nous avons exigé. Si jamais on devait tenir compte de l'ensemble de corps académiques, ça dit qu'au moment, on peut arriver peut-être à 1500 dollars à remettre, disons, par mois. Ce qui n'est pas sûr, d'ailleurs, parce que les démarches doivent continuer. C'est pourquoi nous disons, le 31 janvier, nous allons évaluer la suite des événements. Donc, lorsqu'on est méconnaissant, c'est parce qu'on croit qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on doit.
Professeur Koutoumissa, beaucoup d'étudiants se plaignent de ce que les professeurs sont devenus cumulards. Ils préfèrent les universités et instituts supérieurs privés où ils sont mieux payés. Pensez-vous qu'avec ce salaire en vue, les professeurs vont se sédentariser? Permettez-moi l'expression.
J'espère. C'est un vieux problème, hein. Vous entendez ce que dit le président de la Pékine? Ce sont des promesses. Je crois que j'ai déjà connu ce genre de promesses. Lorsque j'étais encore à l'éducation nationale, j'ai présenté la situation au président. En comparant ce qu'il y avait à Brazzaville à cette époque-là, c'était 1200, il y avait l'Angola qui payait 2000, Makelele payait 2500, depuis lors ça a évolué. Mais à cette même période, le professeur congolais touchait 50 dollars. J'ai vu le président se scandaliser quand il a vu ces chiffres-là. Alors, j'ai été préparer les propositions et il avait été convenu qu'au 31 mars 2003, on passait au premier palier. Bon, le 31 mars, il ne s'est rien passé. Heureusement que je n'avais rien annoncé. Sinon, vous voyez, je risquais de faire démarrer de nouvelles grèves. C'est plus tard, après moi, que la promesse est concrétisée. Mais je ne l'ai jamais dit, c'est la première fois que je vous le dis. Le professeur Emile Ngoye, à lui, je lui ai dit, en tant que quelqu'un qui me suivait. Donc, c'est resté sortir. Il a poursuivi les démarches, mais les gens n'ont jamais su que c'est moi qui ai démarré ces démarches-là et que on avait même conclu. Qu'est-ce que j'espère avec ceci, au cas où c'est concrétisé? Et c'est de cette manière que je présentais les choses. J'espère qu'on peut atteindre un niveau qui peut permettre à l'université, aux instituts supérieurs, de se dégager de cette affaire du paiement des étudiants. Les étudiants peuvent continuer à payer, mais ça ne doit plus être en rapport avec le paiement des professeurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des auditoires qui sont surchargés, on continue à prendre des étudiants alors qu'il n'y a plus de place, hein. On en prend même qui ne valent pas la peine, parce qu'il faut prendre le plus d'étudiants possible, de manière à ce qu'on puisse payer une prime aux professeurs. Et aujourd'hui, la qualité de beaucoup d'étudiants n'est pas bonne. Je n'irai pas jusqu'à vous montrer des copies d'examen. Vous serez surpris de voir que tel et tel monsieur se retrouve même en première licence. Comment est-il arrivé là-bas? Donc, la qualité de l'étudiant a beaucoup baissé. Avec une augmentation de salaire, on peut maintenant demander aux facultés d'abord d'organiser un concours et que chaque faculté ne prenne que les étudiants qu'ils jugent capables et en fonction du nombre de places.
Là, professeur Koutoumissa, c'est la qualité des étudiants dont vous parlez. Nous allons voir aussi la qualité des professeurs.
Okay.
Dans les milieux étudiantins, on reproche à certains professeurs de reprendre les mêmes enseignements d'il y a 5, 10 ans sans y apporter du neuf. Qu'en dites-vous?
Oui, ça, c'est aussi une faute. Vous n'avez qu'à voir les bibliographies. Il ne faut pas aller loin. Hein? Vous voyez, les bibliographies, ce sont auprès de certains les mêmes anciens ouvrages d'il y a 30 ans, d'il y a 20 ans, les nouveaux ne sont pas là. Mais vous savez, aujourd'hui, tout est sur Internet. Celui qui veut se recycler, il n'a même plus besoin d'aller à Louvain, il n'a plus besoin d'aller tellement ailleurs. Il peut se recycler en cherchant, en lisant, en participant à des conférences. Il faut dire que, bon, le corps enseignant, aujourd'hui est en déperdition. La plupart ont franchi les 60 ans. Il est nécessaire qu'on puisse voir comment reboiser ce corps. Et c'est là où je trouve intéressant l'augmentation de salaire, parce que ça peut permettre à beaucoup de gens qui aujourd'hui traînent en Amérique, traînent en France,
de revenir au pays
parce qu'il y a moyen de travailler. Il y a aussi beaucoup de facultés qui organisent le recyclage, qui ont des jumelages avec d'autres facultés d'autres pays, ce qui fait qu'il y a des profs qui vont régulièrement pour
se ressourcer,
se remettre à jour.
Aujourd'hui, dans certaines universités congolaises, bon, presque tout est monnayé, les interrogations, les travaux pratiques. À quand la fin de cette pratique?
C'est parmi justement les retombées que l'on devrait avoir. Il y en a. Mais en général, les professeurs se respectent. C'est un peu moins avec le corps scientifique. Il y a un peu plus d'assistants qui sont dans ce genre de magouille que de professeurs. Ça, il faut le dire et les étudiants le reconnaissent. Malheureusement, beaucoup de ces profs ont laissé des enseignements à des chefs de travaux ou à des assistants et ils ne suivent pas ce qui se passe derrière.
Professeur Koutoumissa, ancien ministre de l'Éducation nationale, certaines personnes se demandent pourquoi les professeurs d'université sont depuis quelque temps attirés par la politique aux grandes dames de la recherche.
Je ne pense pas que c'est propre au Congo, non. C'est comme ça à travers le monde. Beaucoup d'hommes politiques que vous voyez là sont en même temps des professeurs. Parfois, on le dit pas. Donc, ce n'est pas une nouveauté congolaise, c'est un peu partout comme ça. Mais vous savez aussi qu'ailleurs, le professeur touche le même salaire que le ministre. Conséquence, ceux qui trouvent un intérêt particulier à poursuivre leur recherche préfèrent faire leur recherche plutôt que d'aller faire la politique. Donc là-bas, c'est possible. Mais ici, chez nous, où le professeur a moins de 1% de ce que touche le ministre, vous comprenez que...
Vous-même, c'est en 1990 que vous entrez en politique avec le Parti National pour le Renouveau et le Développement, PNRD. Vous participez à la Conférence Nationale Souveraine, mais quelque temps après, vous démissionnez du Haut Conseil de la République, Parlement de Transition, HCRPT. Pourquoi ?
Ça se mobutisait. C'était vraiment la mobutisation à grands pas. C'était devenu une simple chambre de résonance, non plus de ce qu'était la conférence, parce que nous étions là délégués de la conférence, mais avec l'arrivée de ceux qui siégeaient au Palais de la Nation, parce qu'il y avait finalement deux parlements, on a fusionné. Avec l'arrivée de ceux-là, eh bien, Mobutu avait récupéré la situation. Et malheureusement, beaucoup de Congolais ne résistent pas à l'argent, ils ne voient que ça. On a estimé qu'on ne pouvait plus remplir notre mission dans une assemblée comme celle-là. Et nous sommes sortis.
De 2001 à 2003, vous travaillez comme ministre de l'Éducation nationale. C'est à cette époque que l'on parle du phénomène Koutoumissa, puisque le taux d'échec aux examens d'État était très élevé. Comment vous expliquez ce phénomène?
C'est dommage qu'on parle d'un phénomène parce qu'il y a un taux élevé d'échecs, il n'y avait là-dedans aucune méchanceté. Tout simplement, je venais de vous dire que à partir de l'université, on peut remarquer quelle est la qualité des produits que nous envoie le secondaire. Mais lorsque je suis arrivé là, je vérifie, eh bien, il y avait beaucoup de monnayage de diplômes d'État. Donc, il y avait des écoles qui avaient plusieurs centaines d'élèves en classe terminale, alors qu'il n'en avait pas autant dans les classes de recrutement, simplement parce que on recrutait à gauche, à droite, pour pouvoir recevoir de l'argent, et on allait à l'inspection, on cherchait des inspecteurs, on donnait de l'argent, et avec ça, des gens recevaient de diplômes d'État. Nous nous sommes dit, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Lorsque vous construisez un enfant, vous construisez son éducation, et vous mettez dedans du sable, vous attribuez des diplômes, non pas en fonction des connaissances, mais en fonction de l'argent. Nous avons dit, il faut mettre fin à cela par deux procédés. Nous avons beaucoup modifié dans les écoles. Et il y avait évidemment ce que des gens ont vu, c'était une petite superstructure, si vous voulez, au niveau de l'examen d'État. On délibérait et on donnait des diplômes à des gens qui avaient 20%. 20%. Nous avons dit non. On a fixé des critères. Voici comment on va le faire. Nous avons aussi modifié le personnel parce que ceux qui étaient là avaient l'habitude de recevoir de l'argent sous les tables. On savait qui faisait quoi. Et il suffisait de se présenter à tel endroit, on a l'inspecteur, on donne de l'argent et on est sûr d'avoir un 100% qui n'avait aucune valeur. Alors, nous avons dit, le jury change, nous mettons des gens que l'on ne va pas corrompre avec de l'argent, et c'est comme ça que vous avez vu cela. Mais les enfants, ils sont un peu comme tout le monde. Lorsque vous leur dites qu'il faut produire des connaissances, pour avoir le diplôme, ils vont les produire. Mais si vous dites qu'il suffit d'amener de l'argent, ils vont vous amener de l'argent. L'année suivante, déjà, les classes étaient pleines. Parce qu'avant, en classe terminale, bon, des gens se promenaient. Ils savaient qu'il suffit de chercher de l'argent pour réussir.
Professeur Koutoumita, est-ce cette renommée qui a milité en votre faveur pour que vous soyez désigné premier vice-président de la commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption?
Bon, nous avions, à l'occasion de l'examen d'État, déjà fait une structure anti-fraude. Hein, anti-fraude, donc nous avions... boucher des trous à gauche, à droite, on a pris l'information et c'est grâce à cette structure-là que on arrivait à améliorer quelque chose. Je crois que c'était quand même pour cette raison-là, j'étais plus à l'aise dans une structure de ce genre qu'à l'Assemblée nationale.
Professeur Omer Koutoumi Sabaluka Kiota, nous avons contacté quelqu'un qui a travaillé avec vous. C'est le professeur Albert Mouluma Munanga, qui était le deuxième rapporteur de la commission éthique et lutte contre la corruption. Il rend un témoignage de vous, on l'écoute. Professeur Mouluma, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Professeur, dites-nous, ça fait combien de temps que vous connaissez le professeur Omer Koutoumissa?
Ben, Omer Koutoumissa Kiota, je le connais en tant que collègue professeur d'université, et je l'ai connu vers les années 1981 à la conférence nationale souveraine.
91, vous voulez dire?
Oui, 91, oui, à la conférence nationale souveraine, oui.
Et quel témoignage vous pouvez rendre de lui?
Ben, écoute, on a travaillé avec lui à la conférence nationale souveraine. J'ai travaillé avec lui à l'université et aux facultés catholiques de Kinshasa. Et tout de suite là, on a travaillé à la commission d'éthique et lutte contre la corruption. S'il faut faire un témoignage sur ce professeur, c'est une grande personnalité parce que c'est un homme... et qui aime de l'ordre, c'est un homme qui écoute les autres, c'est un homme qui, sur le plan d'analyse de faits, est toujours méticuleux. Et cet homme, quand j'ai travaillé avec lui à la conférence nationale souveraine, et surtout à la commission d'éthique et lutte contre la corruption, je me rappelle encore, chaque fois, il ne cessait de dire, il faut être prudent, il faut toujours se référer au texte de loi. Et lorsqu'on devait engager des missions de service sur le terrain, il ne cessait de dire qu'au lieu de faire la répression sur le cadre de la corruption, il fallait commencer d'abord par la sensibilisation, sensibiliser la population. En sensibilisant la population, lorsque la population est au courant de ce que c'est la corruption, alors lorsqu'il y a des cas de répétition de délits, alors c'est en ce moment-là qu'il faut faire la répression. Sinon, c'est un monsieur collaborateur. Il est vraiment un monsieur qui collabore bien avec les autres.
Professeur Mouluma, je vous remercie.
Merci beaucoup, mes meilleurs voeux.
Professeur Koutoumissa, je vous ai vu à certains moments bouger la tête, esquisser un petit sourire. Vous avez une réaction?
Une réaction, bon, c'est, vous voyez, ça vous avez envoyé à la figure. C'est un témoignage d'un collègue. Je n'aime pas beaucoup recevoir les éloges. Ça me fait un petit peu mal. Hein, on est de l'éducation chrétienne, quelque part. Alors, l'humilité doit être chaque fois de mise. Et lorsque vous recevez ces éloges comme ça, Mais ne vous en faites pas, hein, ce n'est pas tout le monde qui vous dira la même chose. Beaucoup de gens ont cru que, notamment à l'éducation nationale, que c'était de la méchanceté. Alors que non, nous avons essayé de faire ce que nous pouvions. On a aussi essayé de faire ce que l'on pouvait au niveau de la commission d'éthique et de lutte contre la corruption. Mais le plus souvent, ce sont les moyens qui manquaient. Hein, donc... Je remercie le collègue de ce témoignage.
Professeur Koutounissa, vous-même, vous n'avez été candidat ni au présidentiel ni au sénatorial. Êtes-vous finalement sans ambition?
Il y a peut-être à rectifier. J'ai fini par aller tenter l'histoire de sénatorial. Personnellement, je trouvais que les conditions n'étaient pas bonnes. Les membres du parti ont insisté. Bon, je suis quand même allé, mais vous savez ce qui s'est passé dans ces élections-là. Je ne voudrais pas ici dévaloriser les mandats d'autrui. Hein. Je dois vous dire que je n'ai pas été élu. Je n'avais qu'un seul membre qui pouvait me donner sa voix. et celui-là a donné sa voix. Le reste, s'il fallait les recevoir, il y avait d'autres jeux souterrains auxquels je ne voulais pas, je ne pouvais pas. Je l'avais dit dès le départ, d'ici vous comptez sur moi pour aller donner de l'argent là-bas, je ne le donnerai pas. Je ne l'ai pas donné.
Et actuellement, en dehors des enseignements que vous dispensez, vous faites quoi?
Bon, pour l'instant, on suit encore la question de la commission d'éthique et de lutte contre la corruption, parce que vous comprenez, dans un pays comme le nôtre, qui est gangréné par cette maladie, qui a un budget ridicule, hein, on va dire 3 milliards... Un pays comme celui-là supprime la commission de lutte contre la corruption, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous nous battons encore, on prend un peu de temps à se battre, à faire comprendre au gouvernement qu'au contraire, la lutte contre l'évasion fiscale, la lutte contre le pillage, la lutte contre la corruption devrait être pour un gouvernement comme celui-ci sa priorité. Et donc, il faut une commission de lutte contre la corruption. Nous sommes contents que l'Assemblée nationale ait déjà approuvé le protocole de la SADC de lutte contre la corruption, ce qui fait que nous pensons que d'ici quelques mois, le gouvernement ou l'Assemblée nationale ou le Sénat vont mettre en chantier une telle commission.
Pensez-moi, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions le professeur Omer Koutoumissaba Lukakiota, ancien ministre de l'Éducation nationale, ancien premier vice-président de la Commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption pendant la transition. Kelly Kouté a réalisé cette émission et Alain Goy l'a mise en onde. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Bonne fête de fin d'année.